Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Edouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Apparemment, vous avez adoré Arnaud, mon invité de la semaine dernière. C'est tellement inspirant de recevoir des entrepreneurs qui se donnent les moyens, qui se battent sans relâche pour donner vie à leur projet. En parlant de projet, il est désormais temps que je vous parle de celui sur lequel je travaille avec ma team depuis maintenant plusieurs mois. Je pense que ça va vous plaire. En effet, ça fait un petit moment que me trottait dans la tête l'idée d'un salon horloger, mais sous un concept bien précis, à savoir le regroupement d'indépendants et micro-marques dans un endroit dingue, où les codes de l'élégance et du street art se percutent dans une ambiance décontractée et entre amis. Ceci dit, impossible de créer cela seul. Il me fallait une équipe solide et partageant la même vision d'un tel événement et plus globalement de l'horlogerie. C'est donc tout naturellement que trois noms sont venus à l'esprit. Trois personnes habitées par la passion et bourrées de talent. Aurélien et Jérémy de la boutique Aurel mais aussi de la chaîne Parlons Montres, Maverick, co-repreneur de la marque de montres bordelaise Mona et moi-même sommes heureux de vous annoncer la première édition du Time Fest qui se déroulera les samedis 15 et dimanche 16 juin à l'Institut Magret de Bordeaux. Mais laissez-moi vous pitcher ce qui vous attend. L'Institut Magret, c'est un magnifique château du 18e en plein cœur de Bordeaux, avec ses plafonds hauts, ses moulures, ses parquets patinés et ses jardins à la française. Mais ne vous y trompez pas, c'est aussi un écrin bien connu des Bordelais pour accueillir des events d'artistes de street art et d'art contemporain. Un subtil mélange des genres qu'on adore tous les quatre. Quel meilleur endroit pour réunir les marques horlogères indépendantes qu'on adore, celles qui nous inspirent, celles que beaucoup d'entre vous ne peuvent presque jamais essayer. Ici, vous pourrez non seulement les passer au poignet, les voir, les toucher, mais aussi en parler en direct avec les créateurs ou repreneurs des marques présentes, et bien sûr, les acheter sur place. Ajoutez à cela des sorties modèles en exclu mondial, des conférences débats passionnantes, des ventes d'accessoires, tout cela sur fond de street art, dans une ambiance incroyable avec un DJ set, des food trucks, et vous avez la recette du Bordeaux Time Fest, première édition. L'entrée est gratuite sur réservation. Pourquoi les 15 et 16 juin ? Parce qu'un petit week-end bordelais et autour du bassin d'Arcachon avant les vacances d'été, ça le fait, non ? Info et réservation sur timefest.fr, T-I-M-E-F-E-S-T.fr. Et pensez également à suivre la page Insta Timefest pour ne rien louper de l'actu. On a hâte de vous y retrouver. Et maintenant, place à l'épisode 72. Cette semaine, je vous propose d'en savoir plus sur celui que beaucoup considèrent comme le plus grand designer horloger de tous les temps. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est communément appelé le Picasso des montres. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de Gérald Genta. Nous allons revenir sur les grandes étapes de sa vie, mais dans cet épisode, nous allons surtout nous concentrer sur une période moins connue du grand public. Une période pendant laquelle il créera sa dernière marque. Parfois méconnue de certains d'entre vous, la marque Gérald Charles a pourtant joué un rôle essentiel dans la fin de sa carrière et de sa vie. Cet épisode est non seulement l'occasion de vous en dire plus sur cette période moins évoquée par les médias, mais également celle de recevoir, en deuxième partie, Federico Ziviani, l'actuel CEO de la marque Gérald Charles. Sans oublier Franco Ziviani, son père, venu l'épauler dans cette lourde tâche. Vous allez voir que les familles Genta et Ziviani sont très liées, ayant même travaillé ensemble avant le projet Gérald Charles. C'est d'ailleurs avec beaucoup de générosité que Franco nous a fait le plaisir et l'avantage de participer à cet échange initialement prévu uniquement avec Federico. Installez-vous confortablement, je vous emmène à la découverte de Gérald Charles Genta. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Si j'étais né en Italie, j'aurais dessiné des voitures. À Paris, des articles de mode. Mais je suis né en Suisse. J'ai donc naturellement dessiné des montres.
Avec ces quelques mots, M. Gérald Genta a su décrire le travail de toute sa vie. Pendant une carrière de plus de 70 ans, ce dernier a su créer les montres parmi les plus iconiques jamais imaginées. Devenant le plus grand designer horloger de sa génération, et pour beaucoup, de tous les temps. Gérald Charles Genta naquit à Genève le 1er mai 1931, d'une mère suisse et d'un père italien. Dès sa plus tendre enfance, il crayonnait toutes sortes de dessins, notamment des portraits. Ses parents étaient alors bien loin d'imaginer que leur fils allait devenir le Picasso des montres. À tout juste 20 ans, il obtient son diplôme fédéral suisse de bijoutier et d'orfèvre et, dès 1953, soit à peine 22 ans, il intègre la maison Universal Genève. Une marque horlogère parmi les plus importantes de l'époque. Un an seulement après avoir intégré la manufacture, il dessinera son premier coup de génie. La légendaire Universal Genève Paul Router, initialement appelée Paula Router. Une magnifique montre d'une pureté saisissante, conçue pour accompagner les pilotes de la SAS, Scandinavian Airlines System, lors du premier vol commercial entre Copenhague et Los Angeles. En effet, celle-ci avait été conçue pour résister aux puissants champs magnétiques et aux conditions extrêmes rencontrées lors du survol du pôle Nord. Si vous voulez creuser davantage, je vous invite à écouter l'épisode 48, dans lequel je retrace l'histoire complète de cette traversée et plus globalement celle d'Universal Genève. Après ce vif succès, beaucoup de marques vont, elles aussi, vouloir voir leur modèle dessiné par le prodige du design. Omega sera la suivante, avec la fameuse collection Constellation, à l'époque concurrente d'une certaine Rolex Datejust. Mais un des designs les plus marquants dans la carrière de Gérald Genta sera sans aucun doute celui de la Royal Oak d'Audemars Piguet en 1972, créant l'avènement du concept de montre sport chic. Une montre bijou en acier, renfermant le fameux calibre extra-plat 21-21, dont l'ébauche est réalisée par la manufacture Le Coultre. Nom de code de cette première Royal Oak, 5402. Tout cela, j'en parle d'ailleurs dans les épisodes numéro 2 et 3, retraçant l'histoire de la marque et relatant la naissance de la Royal Oak. Je vous invite à les écouter après cet épisode. Saviez-vous qu'en 1968, la maison Patek Philippe avait déjà sollicité Gérald Genta en vue de la création d'une montre habillée ? La Golden Ellipse. Elle réitère en 1976 en commandant à son tour une montre sport chic. De cette demande naîtra la Nautilus, reprenant, à l'instar de la Royal Oak, le dessin d'un hublot de casque de scaphandrier. La légende dit qu'il l'aurait dessiné en 5 minutes sur la serviette en papier d'un bar à Bâle avant de la montrer à Philippe Stern, alors patron de Patek. Le génie est prolifique. L'idée de Genta de créer sa propre société germa, puis vit le jour en 1969, parallèlement aux nombreuses demandes qu'il recevait de la part des manufactures. Cette société lui permettait en outre de répondre à des commandes très spéciales, repoussant encore les limites de sa créativité. En 1975, Genta répondit à la demande de Bulgari et créa la fameuse Bulgari Bulgari. Une montre singulière dont la lunette est inspirée d'une pièce de monnaie romaine. Si vous n'avez jamais vu cette montre, allez jeter un œil, elle est incroyable. IVC fit également partie des marques à avoir eu recours au talent de M. Genta, créant ainsi la fameuse Ingénieur. Il s'agit une nouvelle fois d'une montre sport chic à bracelet intégré, mais n'est-ce pas l'époque qui voulait ça ? Une tendance dont il était lui-même l'instigateur. Début 80, Gérald Genta obtiendra une licence exclusive d'utilisation de certains des personnages de Disney. Une magnifique gamme de pièces extrêmement originales s'ensuivra, avec Mickey, Minnie ou encore Donald, visibles sur des cadrans à la lecture de l'heure inédite, assurée par une mise en scène des personnages. La marque Gérald Genta fut acquise par Bulgari en 1999, puis par extension par le groupe LVMH en 2011. À la suite de cette vente, Gérald Charles Genta se retrouve sans projet et va donc enfin pouvoir se consacrer à ce qui lui tient à cœur depuis si longtemps, à savoir créer ses propres montres en laissant éclater son inventivité sans la moindre exigence de commanditaire, car là, c'est lui le capitaine. La naissance de Gérald Charles. C'est donc en 2000, soit à peine quelques mois après cette vente, que Gérald Genta décide de créer sa marque, Gérald Charles. Mais sa partie, c'est uniquement la créativité. Ce dernier demande alors tout naturellement à la famille Ziviani, avec qui il entretient une relation étroite, de venir l'épauler dans la gestion de ce projet. Franco et Giampaolo Ziviani rejoignent donc l'aventure. Mais à quoi reconnaît-on une Gérald Charles ? Tout d'abord à sa forme de boîte, caractéristique et reconnaissable au premier coup d'œil, le fameux boîtier maestro. Saviez-vous que l'inspiration de sa forme a été puisée dans l'architecture baroque d'un monument romain du XVIIe siècle dessiné par Francesco Borromini, dont la forme est la combinaison d'un carré et d'un octogone avec le fameux sourire à 6 heures. Décidément, toute sa vie, Gérald Genta aura su utiliser des marqueurs forts du design. Comme toujours, je vous mettrai quelques modèles dans la publication Instagram, histoire que vous fassiez une idée. Durant toute cette période qui durera plus de 11 ans, Gérald Genta n'aura de cesse de développer des pièces exceptionnelles, de grandes complications, produites en très petites quantités et pour de grands collectionneurs. Malheureusement, le maestro partira en 2011 et rendra toutes ses pièces orphelines. Mais la route ne pouvait s'arrêter ainsi. Depuis lors, la famille Ziviani eut la lourde tâche de faire évoluer les modèles, préservant l'ADN de la montre et l'expression voulue par son illustre créateur. L'exercice est difficile. 2019 fut l'année du grand renouveau pour Gérald Charles, celle qui allait permettre d'écrire une nouvelle page. Et c'est Federico Ziviani, fils de Franco, qui en prit la responsabilité en tant que CEO. À partir de 2020, l'arrivée d'Octavio Garcia, designer de renom ayant notamment travaillé pendant de longues années pour Omega et Audemars Piguet, a permis de relever le défi de conserver cette fameuse forme de boîte et son identité, tout en l'affinant, ce qui fit gagner encore en confort de portée et permit d'abriter des mouvements parfaitement adaptés. Mouvements aujourd'hui développés à l'aide de la prestigieuse manufacture Vaucher, établie à Fleurier. Mais Octavio Garcia permit également de travailler sur le développement de la gamme Maestro, afin de rendre les montres plus modernes, robustes et adaptées aux exigences de la vie contemporaine. Difficile équation qui fut remportée avec brio. Gérald Charles, c'est désormais 20 personnes, une production de 1500 pièces par an, toujours basée à Lugano, en Suisse. Et une année 2024 chargée de défis, dont nous allons parler dans quelques minutes. À ce titre, Franco et Federico Ziviani nous ont fait l'immense plaisir de se prêter à l'exercice de passer derrière les micros de DMEV. En voici l'échange, maintenant. Chers amis, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Federico Ziviani, le CEO de la maison Gérald Charles depuis 2019, la marque de cœur que l'illustre Gérald Charles Genta créa début 2000. Mais en plus, et c'est une surprise, j'ai également le grand plaisir d'avoir Franco Ziviani, son père, sur le podcast pour pouvoir parler de la legacy. On va justement aller dans les coulisses. En tout cas, merci de nous ouvrir les portes de la maison Gérald Charles et de nous permettre d'en savoir plus. Et dans un premier temps, je vais vous demander, c'est une tradition sur le podcast, si vous pouvez vous présenter, Federico et Franco. Merci.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être pour la première fois dans l'histoire de la maison, ici avec vous, avec des montres et vous. Donc, c'est vraiment la première fois et une exclusive, je dois dire, avec vous.
C'est vrai.
Donc, une petite présentation. Je suis le CEO de la marque depuis 2019. Je suis très jeune, mais je suis né dans l'horlogerie. Donc, je peux dire que j'ai plus que 20 ans d'expérience dans l'horlogerie. Parce que toute ma famille et mon oncle, qui était le CEO de la maison avant moi, et mon père aussi, qui a travaillé très longtemps dans l'horlogerie, ils m'ont éduqué, ils m'ont passionné de ce secteur. Donc, après une expérience que j'ai eue à l'étranger, à Londres, où j'ai étudié même l'informatique, donc quelque chose de très différent, si vous voulez, d'autres sur moi, je n'ai pas étudié d'abord sur l'horlogerie, mais c'était ma passion. Et donc, après, j'ai décidé de reprendre les rênes de la maison de famille, de la société Gérald Charles. C'était une énorme opportunité. Et donc là, maintenant, on a fait pas mal de progrès grâce à la famille et à l'héritage. Et
oui, parce que c'est quand même, avant tout, l'histoire Gérald Charles, on va le voir, c'est avant tout une histoire de famille quand même. On a la grande chance effectivement d'avoir Franco Ziviani qui est à vos côtés, qui est chairman, qui a lui bien connu Gérald Charles Genta. Votre frère, c'est ça, Franco, qui gérait également à l'époque le développement de la marque, c'est ça? Pouvez-vous nous en dire plus? Et déjà vous présenter également, bien sûr.
J'ai connu Gérald en 1982.
Oui.
Parce que j'ai travaillé dans le marketing, dans la communication. J'ai travaillé pour le distributeur en Italie de Gérald Genta dans le lancement du brand sur le marché italien.
D'accord, d'accord.
Il y a longtemps.
Donc, c'est vraiment une histoire de famille. C'est ça que je trouve incroyable et c'est ce qu'on voit trop rarement aujourd'hui. C'est que souvent, c'est racheté par des groupes, par des choses comme ça. Vous avez vraiment, il y a une continuité, il y a une grande cohérence et c'est ce qu'on va voir. Je voulais également commencer par une phrase que vous connaissez bien, mais nos invités ne la connaissent pas. C'est ce qu'avait dit, et vous me direz après ce que cela vous évoque, ce qu'avait dit Gérald Charles Genta lors de la création de sa marque, si vous voulez bien. Je tiens à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à ma nouvelle marque, Gérald Charles. J'ai créé chacun de ces garde-temps avec passion. Comme toujours depuis le début de ma carrière, j'ai cherché à allier technologie et esthétique. J'ai cherché la forme idéale et j'ai utilisé les couleurs comme un peintre utilise ses tableaux pour vous présenter un garde-temps qui vous procurera un sentiment de plaisir à chaque fois que votre regard sera attiré par lui. Si j'ai réussi à transmettre cette passion, alors je suis un artiste heureux qui poursuivra son chemin créatif avec toujours plus d'énergie. Qu'est-ce que cette fameuse phrase que vous connaissez forcément vous inspire ? Quel écho vous procure-t-elle ?
Ça fait vibrer l'air vraiment, cette phrase, quand vous la lisez, c'est vraiment émotionnant. Et c'était dans les catalogues 2005 de Gérald Charles. Donc c'était lui vraiment qui a écrit ça, c'est lui qui a voulu inclure cette phrase dans les catalogues, c'était au début du catalogue. Et je pense que ça dit vraiment les ADN de la marque. C'est très clair, l'ADN de la marque. Et c'est une marque qu'il a créée pour le plaisir d'expresser sa créativité comme une artiste. Donc, ce n'était pas une marque qu'il a créée avec des raisons commerciales, mais c'était vraiment une grande expression créative du maestro. Mais je pense que Franco... il peut bien expliquer l'origine parce que Franco, il a construit la filiale de Marpiglia en Italie.
Oui.
Donc, il connaissait Genta très bien et il sait pourquoi Genta il est venu nous chercher avec une phrase comme ça et pour créer vraiment la marque Gérald Charles pour vraiment pas arrêter sa créativité même après avoir vendu sa première marque Gérald Genta. Les continuer. C'est l'artiste qui s'arrête jamais. De 2000 jusqu'à 2011, il a produit un nombre immense de dessins pour la maison Gérald Charles. Et il a fait ça pas avec une stratégie commerciale pour vendre plus, pour suivre les goûts des collectionneurs, mais vraiment pour exprimer quelque chose de nouveau.
La passion pour continuer à créer. Et utiliser l'artiste qu'il était dans lui pour faire quelque chose en plus pour le monde de l'horlogerie.
C'est incroyable parce qu'effectivement, un monument, une légende comme Gérald Genta, qui a quand même créé, je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast, beaucoup de montres légendaires et qui, à la fin de sa vie, décide de créer sa marque de cœur quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, avec la montre qu'il voulait créer. Et vous, vous avez été à l'ONE, vous avez vraiment été aux côtés de tout ça. Et Franco, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur votre passé, justement, sur Audemars, etc.
Oui. Alors, moi, quand je parle de Gérald Charles, je pense à Gérald Genta. Je pense à mon histoire avec une amie. Parce que, aussi, quand j'ai commencé à travailler avec Audemars Piguet, j'ai continué à avoir une bonne relation avec lui. Et la chose qui me touche aujourd'hui, c'est que quand lui a décidé de créer Gérald Charles, il a appelé moi. Et moi, je dis, écoute, moi, je suis le responsable de l'Europe de Marpiguet. C'est un peu difficile de t'aider, mais ma fille, oui. Et mon frère, il a commencé à travailler avec lui.
D'accord.
Ça veut dire que pour moi, personnellement, c'est une émotion. Je suis très heureux parce que j'ai commencé ma carrière dans l'horlogerie avec Gérald Genta et le lancement de la marque Gérald Genta en termes de communication sur le marché italien.
Ouais.
Et je vais terminer ma carrière avec Gérald Charles. C'est l'expression de la passion que moi et Gérald nous avons toujours eu.
Vous êtes complètement hanté par le design Genta dans la famille, en fait. Hein.
Ouais, c'est une bonne onde, c'est pas mal. Quand même.
Ah oui, non, mais c'est une très bonne onde. Je pense que c'est une onde qui donne envie à tout le monde, en tout cas, puisque en plus, il y a quand même, je trouve que depuis quelques années, il y a quand même une consécration et tout le monde s'autorise à souligner tout le travail qu'il a pu faire. Il est un petit peu mieux connu. Et c'est pour ça, je trouve, que l'épisode d'aujourd'hui prend tout son sens, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il a créé à la fin de sa vie. Et c'était aussi pour ça qu'on voulait, voilà, je voulais vous recevoir et qu'on voulait parler de tout ça, parce que la marque Gérald Charles, certains n'ont pas fait le rapprochement finalement, que effectivement c'était Gérald Charles Genta qui était à l'origine de ça. Et je pense que c'est vraiment important de remettre tout ça au centre et de dire tout ça aux gens.
J'ai décidé, après ma carrière à Londres dans la technologie, de revenir sur Gérald Charles, non ? Parce que je me suis dit, moi, je serai le premier client, collectionneur, porté au poignet, les dernières créations pas très connues du Picasso de l'horlogerie. Il faut voir Gérard Charles vraiment comme une artiste, non? Comme un Picasso de l'horlogerie, beaucoup plus, parce que c'est les plus grands designers. Il n'y a pas d'autres à ce niveau qui ont un impact si important de l'horlogerie. Et donc, ce que nous avons les dernières 11 ans de sa création, c'est un peu comme les dernières musées Picasso, avec les dernières méthodes de Picasso, non? Qui étaient toujours gardées entre la famille pour un nombre très petit de collectionneurs à l'époque, avec des complications très hautes de gamme.
Incroyable, donc, oui.
On parle vraiment d'un patrimoine artistique qui me passionne beaucoup, qui nous passionne beaucoup.
Ben, nous, on s'était déjà rencontrés, vous et moi, en septembre dernier, justement, au Beau Rivage, et vous m'aviez, et j'avais eu la chance de voir certains modèles, et je me souviens très bien, ça m'avait quand même frappé de voir l'émotion avec laquelle, justement, vous me parliez de tout ça, et c'est vrai que dès le départ, on avait évoqué la possibilité de faire un épisode parce que ça m'avait touché. Et effectivement, je reçois, moi, sur le podcast, des gens qui sont empreints de passion, qui sont habités par ça, et je trouve que c'était parfaitement en phase à ce sujet-là. Qu'est-ce qui constitue pour vous l'ADN? Enfin, qu'est-ce qui rend une Gérald Charles unique en son genre, selon vous? Il y a plein de choses à dire, mais quelle est la première chose qui, pour vous, prédomine?
La première chose, c'est plus élégant qu'une montre dress watch, mais plus performante qu'une montre sportive. Donc, le mélange extrême entre l'élégance et la performance sportivité qu'on peut trouver aussi dans l'ADN de Gérald Jantin en général, mais que je trouve les contrastes les plus grands entre une boîte baroque avec des formes très baroques, très vintage, qui maintenant, ça devient de plus en plus reconnu, les vintage, ça revient. Et avec une ergonomie, une résistance à l'eau de 5 mètres, une bracelet caoutchouc hyper confortable. Donc, cette tension, on ne dit pas sport élégante, parce que sport chic, tout le monde le dit.
C'est un peu usurpé aujourd'hui. Tout le monde l'utilise à tort et à travers.
Ça ne va pas du tout. Mais pour nous, c'est plus élégant que la montre classique et plus sportif que la montre sportive ensemble, à mon avis. Mais je voudrais savoir aussi mon père, comment il voit.
C'est pour ça, j'ai la chance d'avoir les deux, on en profite.
Bon, j'ai travaillé avec une autre marque, avec un pied sportif créé par Gérald Jantin, qui était aussi classique. Mais je pense que Gérald Charles, c'est vraiment ça qu'a dit Federico, parce que c'est différent, mais il reste dans les DNA aussi de toutes les créations Gérald Jantin.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que moi, j'ai collectionné des pièces qu'il a fait Gérald Jantin. Moi, j'ai Gérald Jantin, j'ai les autres marques que lui a créées, etc. Et si dans les dernières créations, 1972 jusqu'à aujourd'hui, si vous le mettez sur la table, vous reconnaissez le DNA.
C'est vrai.
Il y a un truc qui est arrivé, ils sont passés 20 ans. Moi, j'étais avec Gérard à Singapour et j'avais au poignet, parce que lui aimait que j'avais au poignet sa montre.
Ah bah oui, oui, comme tout créateur.
Complications que lui avait créées dans cette année. Et nous promenons sur la route et le directeur de Hourglass, il a vu la montre, est sorti et il a dit, ça c'est la nouvelle Gérald Jantin.
Incroyable. Mais vous avez raison, cette cohérence, elle est hyper importante. Alors là, pour l'occasion, justement, je porte sa première création puisque j'ai une Paul Router au poignet, donc c'est encore plus ancien. Mais déjà à l'époque, on avait ce côté, j'aime pas sport chic parce qu'encore une fois, c'est comme vous avez raison, c'est trop utilisé à tort et à travers. Mais en tout cas, des montres élégantes qui peuvent se porter en toutes circonstances. Ça, c'est très important. Et on va le voir un petit peu plus tard, puisque vous êtes même intimement lié à l'univers du tennis, qui est quand même un sport qui maltraite particulièrement les montres, qui est vraiment l'instant de vérité quand on va voir la résistance d'une montre. On en parlera un petit peu plus tard.
Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus entre la montre, le Paul Router que vous portez aujourd'hui, et c'est là que je porte moi, non?
Exactement.
Le design des Jantin, mais les deux, ils ont un micro-router.
Ça, c'est très bien dit. Et quel rotor vous avez dans les Gérald Charles, en plus? Et c'est l'une des premières choses que vous m'avez présentées quand on s'est vu justement à Genève. C'est le travail que vous avez fait sur les rotors.
Tout travaillé à la main et pour rendre la montre vraiment plate. Donc, pour nous, ça sera beaucoup plus facile de dire on fait des montres de 15 mm On met tout dedans. C'est pas trop géré, ça, pour moi. Pour moi, pour vraiment mélanger l'élégance à la sportivité, il faut faire des montres qui soient fines, très confortables, qui sont très ergonomiques, qui tu peux nager avec, et sont toutes des choses qui sont en contraste, parce que tu as besoin de plus d'épaisseur pour nager avec une montre, parce que il y a la pression de l'eau, donc les verres doivent être plus épais et tout, la couronne doit être vissée, c'est nécessaire beaucoup plus d'épaisseur. Et donc ce qu'on a développé, c'est vraiment un savoir-faire horloger et d'ingénierie, de mathématiques, des calculations qui peuvent nous permettre de créer une montre assez fine, comme celle-là que je porte aujourd'hui,
Elles sont très fines, hein. Elles sont très fines, hein, effectivement.
et qui en même temps peut avoir toute la performance pour chaque lifestyle.
Et qui vient s'ajouter en plus avec le, alors on va en parler un petit peu plus loin, mais avec le caoutchouc, quand j'ai essayé justement, quand j'en ai passé une au poignet, j'en ai passé plusieurs bien sûr, mais c'était ce qui était frappant, c'était justement ce confort. On en parle, la boîte, le boîtier contribue grandement au confort de la montre, mais c'est vrai que, faites bien de souligner le côté, une montre très élégante, mais qu'on peut porter en toutes circonstances. Et aujourd'hui, on voit bien que les styles de vie des gens ont quand même drastiquement changé et qu'on a très envie d'être en t-shirt, en chemise, en costume et pouvoir porter une montre qui finalement s'accommode à tout. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur vos montres, je trouve.
C'est exactement ça. Ça me fait plaisir que qu'on a réussi à expliquer vraiment le message. Et c'est le produit qui parle pour lui-même, finalement.
Ouais, et qui est très reconnaissable, à l'instar de toutes les créations justement de Genta. Quand vous avez repris la marque, en tout cas quand vous avez continué à prendre le flambeau, il y a toute une difficulté à ne pas trahir l'esprit de départ, mais arriver à faire évoluer la marque. Ça a dû être compliqué, ça, quand même, pour vous. Comment ça s'est passé? Assez naturellement ou ça a été un casse-tête?
Non, c'est passé assez naturellement parce que on avait des liens très forts avec notre famille, Gérard Genta lui-même. On a eu une expérience familiale plus de 40 ans dans l'horlogerie. On est expert dans la construction, le développement des marques. Donc, c'est notre savoir-faire, ça. On le sait faire, on connaît bien l'évolution du marché. Et comme vous avez dit avant, le lifestyle a changé beaucoup. Mais le goût, c'est toujours le même. Et il y a toujours, nous faisons quelques milliers de pièces par an, jamais plus que ça. Donc, il y a toujours quelques milliers de personnes au monde entier qui apprécient toujours l'élégance. Donc, l'idée, et la stratégie qu'on a implémentée, c'était de garder les dessins originaux de Genta au niveau des cadrans, au niveau des calibres, au niveau des de boîtes, la boîte maestro, au niveau des bracelets originaux. Et après, améliorer avec la technologie au niveau ingénierie pour rendre la montre plus moderne au niveau performance au choc. Toutes les montres sont devenues résistantes au choc 5G et ça ne pas le design. Donc les designs, on l'a gardé le même, mais la performance, les composants techniques, on les a upgradés. Bon, c'était ça vraiment la stratégie et c'est toujours, ça reste toujours la stratégie.
Ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'est tout ce qui ne se voit pas qui fait la différence. D'aspect, on a l'impression qu'elles sont quasiment, qu'elles ont évolué gentiment, alors qu'au final, c'est une vraie révolution à l'intérieur et que tout a changé, finalement. Vous avez fait évoluer la montre.
Et ça, c'est correct. Mais ça sera beaucoup plus facile à comprendre quand vous venez visiter, ça c'est une nouvelle extraordinaire, les musées qui ont ouvert à l'Atelier de Genève. On va parler de ça après. Mais là-bas, vous voyez les pièces anciennes. Et si vous comparez au poignet, les pièces anciennes et les pièces modernes, là, vous comprenez tous les détails.
Eh oui, bien sûr. On retrouve évidemment l'ADN avec le sourire, avec la fameuse forme de boîte, etc. Mais finalement, tout a été refondu. C'est comme ça avec les produits stars, quelque part, que l'on voit quand ils sont très bien conçus. Ben, ça évolue, il n'y a pas de rupture, il y a une évolution, mais en douceur, et qui fait que le produit s'adapte à son époque, finalement.
Bravo, c'est exactement ça. Et c'est très, très clair pour nous depuis le début.
On va parler un petit peu plus, alors justement, l'évolution de l'héritage. Ce que je trouve important, et on l'a dans la fameuse phrase de Gérald Genta, au début de notre interview, de cette équation de la technique et du design. C'est un petit peu ce qu'on pointe du doigt depuis le départ, en fait. On parle de ça, c'est un design, mais au service de la technique, une technique au service du design, un petit peu les deux. On a vu donc l'évolution du boîtier, le fameux boîtier Maestro, qui est d'une construction ultra complexe, comme on dit toujours, la simplicité et la sophistication ultime. Et là, on retrouve vraiment ça. C'est plus de 35 éléments différents, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, et chaque élément est travaillé avec des machines CNC, après terminé à la main. Donc, c'est vraiment un travail manuel là-bas, qui s'est fait le valeur après.
Alors, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a, les heures de travail manuel et la complication pour faire ça, c'est quand même assez, assez faramineux. Donc, la forme, c'est la combinaison d'un carré et d'un octogone, c'est bien ça, avec une inspiration claire et nette dans l'architecture baroque du XVIIe. Et là, on retrouve justement ce fameux sourire à 6 heures, qui est très caractéristique de ces montres-là. Toutes les montres auront toujours, de toute façon, ce trait commun, je suppose.
Oui, absolument. Aussi, Jean-Taille avait fait pas mal de boîtes pour Gérard Charles, beaucoup qui sont inédites toujours. Mais tous, ils avaient en commun cette souris. Et Franco, il a une anecdote un peu sur
ça. On est preneur.
Non, c'est simple. Parce que dans les années 2000, quand lui a créé les souris, un jour, devant un bon whisky, il m'a dit, tu sais, le monde, il a besoin de sourire.
C'est tellement vrai. Et c'est vrai qu'une montre qui arbore un sourire, ou en tout cas qui donne le sourire quand on la regarde, ça peut tout changer. Sachant que nous, je parle pour moi en tant qu'amateur, je pense que je rate ma montre à peu près 150 fois par jour. Donc finalement, on a 150 sourires par jour. C'est pas mal.
La fonction, ça aide déjà beaucoup. Ça aide déjà beaucoup.
C'est ça. La finesse du boîtier, effectivement. Je mettrai aussi des photos parce que c'est vraiment important. Et j'invite les auditeurs à aller sur le site Gérald Charles pour aller voir ça. La finesse, c'est assez frappant. Moi, c'est vraiment, je pense, une des premières choses, parce que cette boîte est très plate et très fine. Et quand on la porte sur le poignet, ça se pose sur le poignet. En plus, le caoutchouc, c'est quand même un confort en plus. Enfin, elles sont quasiment toutes sur caoutchouc, non ? Ou je dis des bêtises ?
Oui, parce que les caoutchoucs étaient créés par Gérald dans son premier modèle. Le modèle Gérald Charles Renaissance. Et on a décidé d'utiliser son bracelet caoutchouc avec les clous de Paris.
C'est très beau.
Inspiré par l'architecture. Et le mettre sur la boîte Maestro, qui avant était avec des bracelets en cuir.
D'accord. Mais c'est vrai que ça contribue encore une fois au confort. Et alors, c'est beau à l'extérieur, mais c'est beau à l'intérieur. On va parler des mouvements, forcément. Ça, c'est quand même super important. On sait qu'aujourd'hui, il y a toujours une grosse attente de la part des amateurs de savoir de quoi est animée une montre et une pièce. Bon, là, vous êtes quand même passé par la grande porte parce que la manufacture, les mouvements Vaucher, c'est quand même pas rien. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Absolument, absolument. Ça, c'est quelque chose qui en discute pas assez, je trouve.
Oui.
Que beaucoup du monde croit qu'on utilise des mouvements Vaucher et ça c'est tout. Mais ce n'est pas ça le cas. La vérité, c'est que nous faisons nos propres développements avec notre équipe de designers, d'ingénierie, des horlogers. Et donc, tout ce que nous produisons au niveau calibre, c'est propre à nous. C'est in-house development. Qui s'apprend des temps de recherche et développement, et qui a des finitions propres à la maison, qui a des règlements de vis, des tenues, des résistances propres à la maison. Et Vaucher, c'est seulement un partenaire.
D'accord.
Un partenaire qui a un savoir-faire incroyable à Florier. On garde la qualité Florier pour tous les calibres. Et donc, on vraiment collabore, c'est une collaboration avec eux, pour développer et produire les développements qui nous faisons avec leurs machines.
Surtout parce que lui, il a les machines pour développer notre projet.
Eh oui. Donc, on part d'une base, Vaucher, et ensuite, beaucoup de développement, parce que vous m'aviez montré également sur le mouvement, sur une des platines, je crois, on retrouvait du design. Vous aviez fait des gravures ou des choses un petit peu particulières qui faisaient écho, encore une fois, au design Genta.
100%. On a fait, pour exemple, pour la montre squelette, c'est une squelette aiguille. on l'appelle, parce que dans l'esprit oriental, ils voulaient les ponts du squelette très fins. Et ça, c'est beaucoup difficile, parce que vous imaginez, c'est qu'on fait une grand palais très haute avec une base très petite, non? Et ça doit tenir. Donc, il
L'image est
faut
bonne, oui.
vraiment pousser jusqu'à l'extrême. Et un autre exemple, c'est le tourbillon. Le tourbillon, c'est le premier calibre que Genta il avait introduit pour la boîte Maestro.
Oui.
Et la raison est claire, parce que dans un mélange de technicité et design, le space créé par les souris à 6 heures, c'est parfait pour placer le tourbillon.
C'est super joli, c'est super bien placé, c'est vrai.
Et le tourbillon qu'on a lancé l'année passée, c'est un tourbillon avec une cage développée à nous. La cage, c'est l'élément le plus difficile dans le tourbillon parce que ça doit tourner, c'est l'élément le plus visible et c'est l'élément le plus délicat. Et donc, on a fait notre propre cage en titane, grade 5, hyper léger,
D'accord.
pour pouvoir tourner pour beaucoup plus longtemps, avec une réserve d'image beaucoup plus longue.
Ah, intéressant.
Et un tourbillon volant avec la forme de la cage qui reprend la forme GC du logo Gérald Charles. Donc,
Incroyable.
vous voyez la G, la C cachée dans notre propre cage qui tourne comme des petites secondes à 6 heures. Et ça, c'est un développement full in-house qu'on a
C'est
réalisé.
dingue parce que c'est de la technicité, de la beauté. Donc, on retrouve l'art horloger à son paroxysme. Et vous avez même la fameuse signature secrète, comme chez Cartier, un peu. La pire comme référence, vous me l'accorderez.
Bah oui, ça va.
Et justement, ça me fait une transition toute trouvée, puisqu'on parlait de Cartier. Sur la partie, vous avez fait appel aussi à l'expertise de sertisseurs genevois pour justement assurer toute la partie qualité du sertissage des pierres, etc. Vous voulez qu'on en parle un petit peu?
Oui, bien sûr. Ça, c'est une partie très importante pour nous et c'est une partie que nos collectionneurs apprécient beaucoup.
Bien
C'est la
sûr.
plus importante. On a un lien très fort, nous, avec la ville de Genève. Toute la conception, tous les designs de la marque sont faits à Genève. Et on a pas mal des opérations aussi au niveau des productions sur Genève. Dans le cadre de certissage, on est partenaire avec Sala Nitro Genève. Ils sont en charge de produire le pièce certie pour nous. Sala Nitro, à mon avis, c'est aussi une société familiale.
Donc parfaitement cohérent et aligné avec vos valeurs.
Il y a Monsieur Pierre Sala Nitro, il y a aussi Patek Philippe qui est dans la société.
D'accord.
Donc, on parle d'une qualité top de gamme. Et la difficulté pour sortir des pièces Gérard Charles, c'est la coupe des pierres. Parce qu'on n'utilise pas des baguettes standard. Vous voyez la montre Maestro, la forme est asymétrique. On a des souris, on a beaucoup de courbatures. Et donc, des baguettes standard carrées ne fonctionnent pas. Et donc, on va vraiment faire des études de sertissage, préparer la lunette. Chaque baguette est différente parce que la cage est différente, la boîte est
Eh oui,
différente.
bien sûr.
Et chaque pierre doit être coupée précise au
Incroyable.
millimètre pour vraiment faire de pièces. Et là, on a toujours des éditions limitées parce que la capacité est très petite. On parle de 10 pièces pour chaque version. On ne peut pas faire plus. Et donc ça nous rend heureux
C'est incroyable.
travailler avec eux.
C'est bien de souligner. C'est vrai que ben, ça apporte encore un petit supplément d'âme à tout ce qu'on a dit avant. Et ça permet aux gens de mieux comprendre l'esprit, justement, Gérald Charles. Ce qui m'avait frappé, moi, je dois avouer, c'est quand même aussi, je suis très sensible à ça, c'était la partie couleur-texture de cadran chez vous. Il y a un travail, je pense que c'est la première conversation, l'échange qu'on avait eu ensemble, justement, en septembre. J'ai l'impression qu'il y a un travail aussi là-dessus qui est absolument exceptionnel. Et dès. Alors, j'aime pas parler d'entrée de gamme, mais dès les pièces les moins chères, entre guillemets, on a déjà. En fait, vous avez fait aucun sacrifice sur les pièces. Les premières pièces ont un niveau d'exigence de qualité là-dessus qui est équivalent, je veux dire. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces fameux cadrans? Je les trouve assez frappants et profonds.
Merci. Oui, ça c'est quelque chose, c'est une capacité qu'on a développée depuis les années 2000 chez Gérard Charles et c'est complètement en ligne avec la phrase que vous avez dit au début. Quand Janta, il a déclaré qu'il, comme un peintre, il a utilisé des tableaux et des couleurs pour générer des émotions dans le public. Donc, les cadrans, pour nous, c'est un composant très important de la montre, comme un tableau, c'est les tableaux principaux, c'est le visage, c'est la partie plus grande de la montre. Et là, vraiment, on a développé nos propres savoir-faire techniques depuis les années pour faire des cadrans profonds et utiliser des couleurs que personne d'autre n'utilise.
Et des textures
Textures aussi, des
aussi.
textures profondes avec un satinage qu'on réalise sur la base, sur la platine de base, avec des soleillages
Oui.
et avec une profondeur qui donne des réflexions
Qui est
lumineuses.
incroyable, qui est incroyable.
Ils peuvent changer les couleurs du cadran par rapport à la lumière. Donc,
C'est
vous le
assez fou.
regardez.
Vous m'aviez montré ceux qui avaient un aspect très grainé, un peu terre battue quelque part, qui était ça, ceux-là, ils m'ont fracturé l'œil.
Ça, c'est les GC Sport terre battue.
Incroyable.
On s'est inspiré au tennis. Nous avons
Bien
un lien
sûr.
très fort avec le tennis, vraiment pour expliquer le confort au poignet. Si un joueur de tennis comme Hubert Hurkacz, numéro 8 dans l'ATP mondial, peut jouer avec une manche Gérard Charles, c'est clair, ça signifie que ça fonctionne.
Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui s'aventurent à ça en général. Hein,
Parce que c'est dangereux.
parce que c'est dangereux, parce que c'est très déconseillé, tout simplement. Quand les montres ne sont pas préparées, en tout cas quand les montres ne sont pas équipées pour et réalisées pour, mais on connaît quelques marques à peine qui font ça, dont vous justement. Je voulais parler aussi de l'arrivée, parce que ça c'est quand même pas rien également. Vous êtes arrivé en 2019, Federico, 2020, l'arrivée d'Octavio Garcia, qui est quand même aussi, à mon avis, qui a dû apporter un souffle et quelque chose d'incroyable. Alors pour resituer, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé en Chief Creative Officer chez Audemars Piguet pendant 11 ans, de 2000 à 2011. Donc en gros, on reste en famille, on reste Genta, voilà, on reste hyper cohérent, quoi. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, Octavio, c'est une amie de famille. Il est passionné pour la marque et il a vraiment envie de continuer à travailler sur des dessins de Janta. Et lui, il avait la chance de travailler, de parler, de discuter de design avec les maestros. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique.
Ouais, c'est incroyable.
Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un à la tête de notre département de design et créativité, parce qu'il n'y a pas qu'Octavio chez nous comme designer,
Bien sûr.
mais à la tête, il y a bien sûr Octavio, et lui, il nous guide pour garder l'ADN, l'esprit créatif de Gérald et l'amener dans le futur. Et vous êtes correct, en 2020, quand il est rentré dans la marque, nous a aidés pour développer la squelette. Donc, le squelette, c'est un mouvement qu'on a dessiné et développé in-house avec Octavio dans l'esprit de Gérard Chargenta.
C'est incroyable et c'est qui de mieux que quelqu'un qui a connu Gérald Sargenta, qui de mieux que quelqu'un qui a travaillé chez Audemars, qui est quand même une des marques quand même qui a le plus compté pour Genta. En fait, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on est tellement aligné finalement. Toutes les planètes s'alignent au fur et à mesure qu'on parle de ça. Il n'y a pas de fausse note là-dessus. J'ai cru comprendre quand même, on en parlait un petit peu en off avant qu'on enregistre, que 2024, alors chaque année a été une année d'évolution, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression quand même que 2024, ça compte pour vous, hein. Il y a eu pas mal de choses. Le nouvel atelier boutique, alors je ne sais pas comment l'appeler. La maison, j'ai vu, rue du Mont-Blanc en plein cœur de Genève.
Oui,
Dites-nous en plus, parce que ça, j'ai hâte d'y aller.
c'est le seul espace dans les monts de l'horlogerie à Genève où vous avez au même place un musée, l'atelier horloger, la boutique
Waouh.
et l'espace de showroom entertainment pour les clients, le bar et les restaurants. C'est le seul endroit où tous les quatre éléments sont ensemble pour donner une
Incroyable.
expérience à 360 degrés aux collectionneurs.
En plein cœur de Genève, j'invite tous les auditeurs à venir vous voir là-bas, à venir pousser les portes pour aller découvrir tout ça. C'est quand même, là, on comprend encore mieux votre univers. Il y a les pièces de musée en plus, il y a tout ça, ce dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça, c'est tout frais. C'est juste, ça sent encore la peinture quasiment, si on peut dire.
Absolument. C'était un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans, plus que 3 ans,
Ouais. Okay.
parce qu'on a dû trouver vraiment la meilleure position à
Ah
Genève,
ouais.
Mont-Blanc 3, 5 minutes à pied de la gare, 1 minute à pied du lac, pont du Mont Blanc. Donc, c'est un endroit dans un bâtiment du XVIIe
Il est
siècle.
magnifique le bâtiment, il est
Magnifique.
incroyable.
Dernier étage,
Ah ouais.
beaucoup de lumière, des fenêtres, il n'y a que de fenêtres. Pendant les 300 mètres carrés de l'atelier, il n'y a que de fenêtres. Donc, très bien pour les horlogers, non? Qui doit
C'est
travailler là-bas.
sûr. La lumière, c'est important.
Bah oui. Et donc, on l'a vraiment réalisé avec un esprit, une architecture, avec des études des architectes, mais avec notre direction créative. Donc, on a utilisé notre propre team de design qui design les montres
Ouais, ah
pour
oui.
donner la ligne créative de l'atelier. Parce que l'atelier doit être vraiment comme rentrer dans une montre Gérard Charles
C'est
grandie.
incroyable.
Une
C'est
expérience.
incroyable. Donc la partie sourire de la boîte, c'est quoi? C'est l'atelier ou c'est la restauration?
Ah, les deux, j'espère. Mais venez essayer. Et après, vous me dites.
Première année au Watches Wonders. Donc ça, c'est quand même aussi une consécration quelque part, parce que c'est pas rien.
Première année dans 24 ans d'histoire. Donc, même Gérald, il n'était pas rentré, mais nous, finalement, on est rentré parce que c'est vraiment l'étape importante pour la marque. Donc, il
Ah
faut
ouais.
continuer à grandir dans ses côtés.
Et là où ça m'a le plus frappé, c'est l'expansion, le développement du nombre de points de vente. C'est-à-dire que là, vous avez passé la cinquième, la sixième, enfin je ne sais pas, mais c'est assez vertigineux. Avec, je crois que c'est 60 points de vente en tout. Et je crois qu'en 2024, on est sur 10 nouveaux points de vente, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça?
Oui, vous êtes correct. Nous produisions autour des 1 500 montres par an. Donc, c'est une production très contenue, mais quand même intéressante pour un indépendant. Et la stratégie, ce n'est pas d'augmenter le volume,
La cadence ou le
non,
volume.
mais c'est d'introduire des nouvelles complications.
D'accord. Donc parfaitement en phase avec Gérald Chargenta. D'accord.
Bravo, exact, c'est dans l'esprit. Et donc, l'atelier, c'est le hub pour nous, pour le développement des nouvelles complications qui vont ajouter dans la production d'ici jusqu'en 2030. Donc, on a déjà le production plan horizon
D'accord.
2030 avec toutes les nouveautés qu'on va présenter au niveau des complications. Ce ne sera pas beaucoup de nouveautés, mais très bien sélectionnées et très,
D'accord.
très compliquées. Donc, les points de vente sont augmentés, mais sont quand même pas beaucoup. Si on regarde le monde entier, on a 7 milliards, 8 milliards de personnes maintenant. Donc, 60 ou 70 points de vente, c'est finalement rien. Et on a ouvert le Japon récemment. C'était
Ah ouais.
l'un des derniers marchés qui on ouvre, mois janvier. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. Et le Japon, c'est très important au niveau des collectionneurs. Vous savez. Là, ils sont très techniques, ils apprécient beaucoup. Et on a fait avec Franco le tour du Japon. On était une semaine, du matin au soir, voyager, visiter, parler avec les clients. Et on était vraiment heureux de voir la réaction des clients qui connaissaient tous Janta, qui reconnaissaient les ADN de Janta dans l'esprit Gérard Charles et qui ont déjà voulu inclure la montre Gérard Charles dans leur propre collection. Donc, étonné par le early adopters au Japon.
Ils sont sous, oui, et puis on est vraiment dans un univers chez eux qui correspond parfaitement. C'est-à-dire que vous ne laissez aucune chance au hasard, vous êtes ultra sharp et précis donc dans ce que vous voulez faire. On est quand même dans le monde de grands Seiko, on est dans le monde du polissage Zaratsu, on est dans le monde de toutes ces choses-là, du fastage, etc. Donc forcément, vous avez dû avoir un bel accueil, je pense, là-bas, et les gens ont dû particulièrement apprécier vos pièces, à mon avis.
Absolument. Et pour nous, l'Europe reste toujours le premier marché. Ça
Bien
c'est
sûr,
génial.
bien sûr, bien sûr.
C'était le premier marché. Paris, on a ouvert Paris 2019. Donc, c'était un des premiers points de vente à Paris. Et après, maintenant, on se développe aussi avec Monaco, avec Cannes, en France. Et donc, on a pas mal des ouvertures en Europe et aux États-Unis.
Oui.
Pour le 2024, mais on garde toujours la distribution très sélectionnée, non? On n'a
Je
pas de
comprends.
pièces pour donner à tout le monde. Donc, pour nous, c'est important la qualité de partenaire. On a déjà 4 partenaires aux États-Unis. On a pas mal de rendez-vous à la foire. On a un très bon intérêt, mais on doit choisir. On ne peut pas aller avec tout le monde. Donc ça, c'est le choix qu'il faut faire quelquefois.
Ceux qui veulent voir à Paris vos pièces, on est chez Dubail, Place Vendôme.
Oui, bien sûr.
Pour pouvoir admirer vos pièces, on n'a pas que des Français, mais on a une communauté francophone, hein, bien sûr. On salue aussi nos amis belges, on salue nos amis suisses, on salue nos amis canadiens. On a beaucoup aussi des gens des Dom-Tom, etc., qui écoutent le podcast. Je voulais aussi parler de la partie, justement, on a commencé à l'évoquer un petit peu sur la partie tennis professionnel. Est-ce qu'on peut dire quelques petits mots en plus là-dessus? Parce que je pense que vraiment, en fait, c'est ça qui est bien. Alors moi, je suis pas tennisman, je le fus, mais je suis par exemple vététiste, vélo. Et on sait que le vélo et le tennis, c'est parmi les deux sports les pires pour les montres, on le sait en général. Donc je pense que quand ça passe le test et l'épreuve le baptême du feu dans ces deux sports, c'est bon.
Alors, vous faites un peu des tests avec vos vélos. Je vous donne une montre Gaucher Gérard Charles. Après, vous faites des tests.
Mais quand vous voulez. je suis là dans un mois. Je suis à Watches and Wonders.
Le tennis, c'est notre sport. Mon père aussi, il est un joueur de tennis depuis…
Depuis plusieurs années.
Vous ne le voyez pas, mais il fait le geste de dire « Bon, ça fait quelques temps.
» Moi, je cours et lui, il joue avec la classe. Donc, moi, je dois courir après tous les balles et lui, il a la classe pour…
Oui. Ancienne.
L'ancienne, c'est ça.
Oui, c'est naturel pour nous, le tennis, parce que c'est un sport élégant, parce qu'il y a un certain dress code. Imaginez Wimbledon, il faut respecter, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de stratégie, parce qu'il faut penser… Où jeter la balle, où la balle peut arriver. Donc, très réflexif, très élégant. Mais en même temps, il y a la côté sportif dynamique. Donc, il faut courir, il faut avoir résistance au choc. Il faut jouer pour 2 heures, 3 heures sans arrêt. Donc, c'est un sport qui représente bien le ADN de Gérald Charles.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Il faut pas se casser les chevilles comme je fais. Il faut faire attention.
C'est la seule limite de l'exercice, en effet. Mais vraiment, j'invite tous les auditeurs à aller voir. Enfin, moi, ce texturé, je reviens là-dessus, mais ce texturé terre battue de cadran m'a cassé les yeux. Tellement c'est vraiment incroyable à voir. Pour ceux qui viennent au Watches and Wonders, vous pourrez aller voir. Voilà, à partir du 12. Allez voir ça, allez voir ces complications, allez voir les boîtiers et surtout, et je le dis à chaque fois dans le podcast depuis des années, essayez les montres. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Parce que le confort, moi je sais que là, le confort, c'est quelque chose de plus en plus important. Enfin, on aime bien avoir des choses qui soient confortables et moins faire de concessions là-dessus en tout cas. Je pense qu'on a fait un bon tour déjà, mais avant de clôturer, est-ce que vous pouvez me dire justement qu'est-ce que sera Gérald Charles par la suite?
Vous voulez savoir beaucoup, hein? Je vous ai
déjà le du scoop.
C'est bien, j'aime bien. C'est correct. C'est clair pour nous, garder l'ADN, garder le même esprit. Nous, on ne change pas. On reste ce qu'on est. On sait qu'on a toujours de fans, des collectionneurs qui nous aiment. Et on continue à évoluer la technologie dans un sens, pas des smartwatches, pas du tout, mais dans un sens des techniques mécanique, horloger, pour avoir une extrême de élégance et performance dans la montre. Donc, des complications, c'est sûr que dans les prochaines 10, 20, 30 années, vous allez voir des complications, vous allez voir de différents matériels, vous allez voir des moyens différents pour expliquer le ton. Donc, pas classique, on va toujours développer quelque chose qui doit surprendre dans l'esprit de la marque. C'est un esprit créatif, un esprit de très peu de pièces, comme une artiste, comme une galerie d'art. Donc, c'est ça que vous allez avoir. Et vous allez avoir l'atelier qui va se développer.
Ça va être incroyable.
Vous allez voir ça. Et après, dans le reste du monde, les États-Unis et l'Asie, il y a beaucoup de développements qu'on peut faire. On a pas mal de collectionneurs là-bas. Donc, vous allez voir.
J'ai l'impression qu'on va en voir pas mal, oui. Federico Franco, merci pour le temps. C'était passionnant. Ça nous a permis aussi d'un petit peu de voir un peu plus les coulisses et de comprendre mieux la marque. Merci à vous. On vous souhaite en tout cas un beau développement. Mais je pense que là, Les cartes sont globalement. Votre jeu a l'air bon quand même, ça va. On a un bel outil, un bel écran, que j'ai hâte de voir le mois prochain. On a une arrivée Watches and Wonders, on a le nombre de points de vente, on a des nouveautés. Bon, je pense que plutôt les planètes sont plutôt alignées. On vous souhaite le meilleur en tout cas, merci à vous.
Merci, 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 à bientôt.
Merci.
Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Une montre-bracelet ne doit pas simplement indiquer l'heure, mais raconter une histoire, capturer l'imagination et devenir un compagnon fidèle dans la vie de celui qui la porte. Gérald Genta. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain, dès 6h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao !